Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Alain Spio, bonjour. Vous êtes depuis le 29 novembre 2012, date de votre leçon inaugurale, qui est d'ailleurs publiée chez Payard, titulaire au Collège de France de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités. Nous allons essayer de comprendre avec vous ce que signifie cet intitulé et examiner les grandes thématiques qui traversent vos cours. Et puis peut-être pourrons-nous vous entendre sur les menaces toujours actuelles qui pèsent sur le droit du travail, lequel est désigné depuis quelques décennies comme l'ennemi public numéro un de l'emploi. Je rappelle que vous venez tout juste de publier chez Flammarion « Au-delà de l'emploi », qui reprend et met à jour le rapport que vous avez commandé en 1999, la Commission européenne sur les transformations du travail et le devenir du droit du travail en Europe. Dans votre leçon inaugurale intitulée « Grandeur et misère de l'État social », vous rappelez cette phrase intemporelle d'Aristote, écrite dans La Politique, « En ce qui touche l'égal et le juste, même s'il est difficile de découvrir la vérité à leur sujet, il est cependant plus aisé de l'atteindre que d'y amener par la persuasion ceux qui ont le pouvoir de se tailler la part du lion. Car ce sont toujours les plus faibles qui recherchent l'égalité et la justice, alors que la classe dominante n'en prend aucun souci. » On pourrait peut-être repartir de ce texte à l'insupio, ou du moins à son esprit, pour prendre contact avec vos travaux.
Bonjour, donc merci pour votre invitation. Une entrée en matière pour vous répondre, ce serait peut-être un petit commentaire de l'intitulé de la chaire qu'il me revenait de présenter ce jour-là, qui est un intitulé un peu long. C'est « État social et mondialisation, deux points, analyse juridique des solidarités ». Alors, si on reprend d'abord la première partie de cet intitulé, « État social et mondialisation ». La mondialisation doit être distinguée, c'est une des possibilités offertes par la langue française qu'on ne retrouve pas ni en anglais, ni en allemand, ni dans d'autres langues, de la globalisation. Et donc le choix du mot mondialisation n'était pas dû au hasard, même si tout de suite la traduction qui a été faite, cet intitulé, était « globalization, of course ». Mondialisation est construit sur « monde », qui vient du latin mundus, qui se définit par opposition à l'immundus, l'immonde. Et au fond, il y a dans cette opposition la même que celle qu'on trouve en grec entre le chaos et le cosmos. Le chaos est une situation dans laquelle l'homme ne peut survivre. C'est la situation des espaces non réglés. Et pour rendre le monde habitable, pour passer de l'immonde au monde, il faut un effort des hommes. Et c'est là ce passage au cosmos, d'où est venue la cosmologie aussi, parce qu'il y faut aussi de la beauté. Donc, cette idée de mondialisation, dans mon esprit, s'opposait à globalisation. En ce sens que globalisation est présentée comme l'effet de force inexorable qui ne serait pas entre les mains des hommes et qui verrait peu à peu s'étendre un ordre spontané qui aurait vocation à s'appliquer en tout pays de la même façon.
Vous voulez dire un ordre homogène?
C'est ça, l'ordre de ce que on peut appeler l'extension du paradigme du marché à toutes les activités humaines, donc un marché total. Et cette conviction que nous étions passés dans ce monde s'est ancrée à partir de la chute des régimes du communisme réel, dont on peut dater le début en fait aux réformes d'Aung San Suu Kyi, puisque c'est là que commence un processus qui, à mes yeux, n'est pas de victoire du capitalisme sur le communisme, mais un début d'hybridation dont la Chine reste le modèle le plus remarquable, mais qui se donne à voir aussi, me semble-t-il, dans les sociétés occidentales. Donc, au travers de mondialisation, la question qui se pose, c'est comment peut-on, dans le contexte historique, technique et politique qui est le nôtre, penser un monde qui soit, si possible, paisible, qui fasse place à la diversité des façons d'exister, mais dans un sens de la collaboration des différentes nations, ou bien est-ce que nous sommes, globalisation, ça se voudrait dire, condamnés à suivre, accompagner un mouvement qui serait l'équivalent d'une force naturelle. Donc clairement, il y a dans le titre « Mondialisation » une vue prospective. Parce que c'est une part du travail des juristes, pas simplement d'essayer de faire une analyse, mais aussi d'essayer d'avoir une prospective. Quant à État social dans ce titre, il faut rappeler que l'État, dans le sens rigoureux du mot, est une invention médiévale. L'État a été inventé par les juristes pontificaux au moment de la Révolution grégorienne. Il est intéressant de se souvenir d'ailleurs qu'il a été inventé sur le modèle des anges, parce que à l'époque on connaissait les hommes qui avaient un début et une fin, être mortel, Dieu qui n'a ni début ni fin, et il fallait inventer quelque chose, un être qui aurait un début mais pas de fin. Donc ce qu'on avait disponible, c'était les anges. Donc cet être immortel, depuis son invention, a subi un certain nombre d'avatars. D'abord, lorsqu'il a échappé à la papauté pour devenir au cœur de la construction des premiers États-nations que furent l'Angleterre et la France. Ensuite, au moment des révolutions, dans le cas français de la Révolution française, où il s'est détaché de l'autorité divine. Mais au XIXe siècle, il était soumis à des attaques très fortes, puisqu'on y voyait un reste d'une construction métaphysique et arbitraire qui a été mise en cause par les anarchistes, notamment, aussi par les marxistes. Et l'État social a été l'invention qui a permis, de sauver la mise à l'État. C'est-à-dire qu'au lieu de se présenter comme un maître qui domine ses sujets, ce qu'en allemand on appellerait « Herrschaft », l'État a pris le visage, au contraire, d'un serviteur qui est là pour servir. Et ça a été en France, par exemple, l'invention des services publics. Donc il y a eu un retournement qui a permis, j'allais dire, de sauver l'État dans ses formes démocratiques, alors que dans les expériences totalitaires du XXe siècle, là, l'État a été réduit à un État purement instrumental, puisque ce qui faisait loi, c'était d'abord le parti, qui était censé exprimer un ordre scientifique et une dynamique scientifiquement prouvée du monde, que ce soit évidemment sous des formes très différentes, qu'il ne faut pas confondre, mais dans le cas du communisme réel ou du nazisme. Donc l'État social a prouvé dans les épreuves qui l'ont opposé au totalitarisme sa viabilité et a connu une sorte d'âge d'or après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la période où ont été adoptés les grands textes sur lesquels il continue de reposer, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais aussi la Déclaration de Philadelphie de 1944. Donc cette période a été celle d'un véritable sursaut dogmatique face aux impasses qui avaient été révélées par une conception scientiste du pouvoir.
Alain Supiot, vous aviez publié donc au Seuil en 2010 un livre qui s'intitulait « L'esprit de Philadelphie, la justice sociale face au marché total ». Alors, je lis. Il s'agit de remettre à l'honneur la déclaration de Philadelphie proclamée en 1944 par l'Organisation internationale du travail. Ce texte entendait faire de la justice sociale l'une des pierres angulaires de l'ordre juridique international, affirmant que le travail n'est pas une marchandise, ça c'est très très important, et qu'une paix durable ne peut être établie que sur la base de la justice sociale.
Alors d'abord, la formule selon laquelle il n'y a pas de paix durable sans justice sociale, elle apparaît dans le traité de Versailles, et en 44, elle est répétée, si je puis dire. Et elle est répétée sur une base qui mérite d'être soulignée, parce qu'on dit « l'expérience nous montre la pertinence de ce que nous avons dit en 1919 ». C'est-à-dire, si on oublie les impératifs de justice sociale, nous avons la guerre et la violence. Donc cette conviction à la fin de la Seconde Guerre mondiale était liée aussi avec une conception, à mes yeux, lucide de ce qu'est une communauté politique, qu'elle soit nationale ou internationale. Une communauté politique, c'est pas ce qu'on nous rabâche sous le terme de vivre ensemble. Ce sont les vaches qui vivent ensemble. Et une société, ce n'est pas un troupeau productif. Là, le droit nous le montre dès le Code de Justinien, donc c'est un texte vénérable, fondateur de l'ordre juridique occidental, donc de l'Empire romain tardif, qui est un des premiers textes qui définit ce concept omniprésent maintenant de société, en disant, ces juristes se demandent qu'est-ce que c'est faire une société, alors ils parlent du contrat de société, et qu'est-ce qui distingue ça d'être en indivision ? Parce que l'indivision, on possède ensemble quelque chose, puis dans un cas, c'est une société. Quel est le critère ? Ils disent le critère, c'est que les membres d'une société sont liés par une entreprise commune, des objectifs communs. Donc il y a une représentation commune, un imaginaire commun qui porte cette collectivité.
Des projets.
Et qui la distingue simplement de cet état de notion, là, aujourd'hui, de vivre ensemble, dont le succès témoigne justement au fond de la perte de conscience de ce qui fait une communauté politique. Or, pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment Roosevelt, qui va envoyer à la mort des milliers de jeunes Américains, est conscient qu'il faut que les sacrifices qu'il va demander aient un sens et son projet de développement de droits sociaux, puisque largement les droits sociaux de la Déclaration universelle procèdent des analyses de Roosevelt. Il utilise d'ailleurs un argument qui vient de la décision de la Common Law du XVIIIe siècle. Les hommes dans le besoin ne sont pas réellement des hommes libres. Donc si nous voulons protéger des sociétés fondées sur la liberté, nous devons lutter contre la pauvreté et la misère. Donc il y a un lien entre défense de la démocratie, défense de la justice sociale et maintien de la paix. Et ce qu'on a voulu faire dans la déclaration de Philadelphie, c'est transposer cette analyse à l'échelle internationale, en disant comment organise-t-on une société internationale fondée sur la coopération entre les nations, en sorte que dans chaque nation, eh bien, soit assurée la justice sociale. Donc c'était la justice sociale à la fois au niveau des nations et entre les nations, ce qui aurait supposé des formes de solidarité entre pays riches et pays pauvres. Mais ce projet, qui est donc très vivant en 1944, va être rapidement abandonné. Il a donné lieu à un projet d'organisation du commerce international qui aurait promu la stabilité des cours, la coopération économique. Rapidement, ça va être mis de côté au profit du paradigme, enfin le mot un peu, disons, de la croyance sur laquelle repose aujourd'hui l'Organisation internationale du commerce, qui est au contraire la mise en compétition généralisée. Donc l'abandon du projet de coopération économique internationale, Il est à peu près acté dans le milieu des années 60 et on va passer à un autre monde qui est fondé sur une autre représentation selon laquelle la meilleure justice possible, c'est celle qui procédera de cette mise en compétition à la fois des nations entre elles et à l'intérieur de chaque nation des travailleurs les uns avec les autres.
Nous allons dire quelques mots sur les enjeux de vos cours, Alain Supiot. En 2012-2013, le cours s'intitule « Du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres ». Ce cours d'ailleurs a donné, je crois, en 2015, le livre « La gouvernance par les nombres » paru chez Fayard. Alors, si vous me permettez, je cite le début de ce livre qui s'ouvre sur une citation d'Ecclésiaste. « Ce qui manque ne peut être compté ». Vous écrivez « L'hypothèse dont procède ce livre est que la crise de l'État-providence est le révélateur d'une rupture institutionnelle beaucoup plus profonde qui affecte la manière proprement occidentale de concevoir le gouvernement des hommes. Et la conclusion, c'est que le principe de solidarité est aujourd'hui le principal obstacle auquel se heurte le marché pour s'imposer totalement face à l'ordre juridique. C'est un constat extrêmement sombre. Alain Supiot ?
Il est dit que le principe de solidarité est un obstacle, c'est un obstacle qui demeure. Et il est vrai que la solidarité n'a pas forcément un visage très souriant. Ça peut être aussi les formes de solidarité religieuse, identitaire, nationaliste qu'on voit ressurgir partout. C'est-à-dire à partir du moment où la solidarité n'est plus pensée comme un ciment de la société politique, les solidarités se reforgent sur d'autres bases. Donc c'est,
mais sur des bases plus claniques d'une certaine manière.
Oui, sur le, oui, une petite précision. Effectivement, le livre publié chez Fayard l'année dernière sous le titre La gouvernance par les nombres, en réalité, couvre les deux premières années de cours, qui formaient une unité. En effet, dans un premier temps, le diagnostic que j'ai essayé de poser était celui de la crise profonde dans laquelle est rentré l'idéal qui porte encore le révolutionnaire français, qui est celui d'un règne de la loi. Donc je retrace l'histoire de cet idéal qui naît chez les Grecs. Nous n'obéissons à aucun homme, nous obéissons à cette reine métaphysique, voilà, qu'est la loi.
Instance abstraite au fond.
Abstraite. Donc il y avait la recherche d'un ordre dans lequel le pouvoir est impersonnel, et c'est l'obéissance de chacun à une loi commune qui garantit la liberté de chacun, et sur la base de cette obéissance commune à la loi, nous allons pouvoir, entre nous, passer des contrats. Ça dessine un ordre dans lequel il y a deux plans. Il y a un plan vertical, qui est celui de la loi, qui s'impose à tous. Et c'est la loi qui prend en charge ce que on pourrait appeler tout ce qui est incalculable. Par exemple, l'identité des personnes, la protection de la terre qui nous porte au travers des générations. Donc il y a un certain nombre de valeurs incalculables. La dignité humaine est une qui va être exprimée juridiquement, justement, après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est parce que nous avons ce plan vertical de la loi prenant en charge l'incalculable que peut se déployer sur un plan horizontal, les rapports contractuels qui, eux, peuvent être animés par la recherche calculée d'un intérêt calculable. Donc, c'est ce type de construction institutionnelle qu'on voit à l'œuvre dans les sociétés modernes, à partir, dans le cas français, de la Révolution française. Or, le diagnostic qu'on peut poser, c'est que ce modèle est rentré dans une crise profonde. J'évoquais tout à l'heure l'expérience des totalitarismes qui récusent toute autorité à la forme juridique et selon lesquelles le droit n'est qu'un instrument d'exercice du pouvoir. Donc ce raplatissement du droit sur le pouvoir et comme outil d'expression du pouvoir laisse place en fin de compte à l'expression pure des rapports de force. Donc le droit est liquidé en tant qu'obstacle possible pour l'exercice du pouvoir. Et cette crise du règne de la loi s'est accentuée à l'époque moderne, et on le retrouve sous une forme différente, selon laquelle ce qui doit faire loi, c'est le calcul d'utilité économique, et donc toute loi, tout intérêt, doit pouvoir être soumis à un calcul d'utilité. Pour en prendre un exemple d'actualité, les négociations actuelles sur le traité du commerce transatlantique, il s'agirait de dire que, par exemple, une initiative prise par un État en matière d'environnement ou en matière sociale devrait pouvoir être soumise à un arbitre qui pourrait calculer si cette initiative n'est pas de nature à porter un certain préjudice calculable à des investisseurs qui comptaient sur l'état antérieur du droit et qui devraient de ce fait être indemnisés. Donc, si vous voulez, toute espèce de règle doit pouvoir être rapportée à un calcul. Donc, ça ne veut pas dire que la loi disparaît, mais sa fonction change totalement, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, nous avons ce droit du travail qui est devenu si bavard et inconsistant, parce que on ne voit plus la loi comme un cadre stable à l'intérieur desquels chacun peut agir librement, mais comme un simple relais de politique et de calcul économique. Donc on va dire, je regarde les statistiques sur l'emploi, eh bien je vais faire un dispositif qui va s'accorder à cela. Vous voyez, c'est très frappant, la réforme du droit du travail, là, dans le débat public, il n'a été donné la parole qu'à des économistes, comme si la question de l'édiction de quelle est la règle juste en matière de travail dépendait uniquement d'une affaire de calcul d'efficacité économique.
Dans votre livre « La gouvernance par les nombres » édité chez Fayard en 2015, vous démontrez, Alain Supiot, que pour Friedrich Hayek, le célèbre théoricien du libéralisme, la solidarité est un instinct hérité de la société tribale dont il faut se défaire. Et il insiste, une grande société n'a que faire de la solidarité au sens propre du mot.
C'est un Autrichien qui part aux États-Unis. Il a une très solide formation juridique, ce qui est devenu assez rare dans le monde des économistes aujourd'hui. Et donc, il a une réflexion où il tente de nouer sa compétence économique avec une réflexion sur quels seraient les meilleurs cadres institutionnels possibles. Et sa vision du monde est effectivement, les sociétés humaines comme une poussière de particules contractantes animées chacune par le calcul de leur intérêt, de la maximisation de leur intérêt. Et il faut créer les conditions de réalisation de ces calculs et spontanément, le meilleur ordre possible va surgir. Alors, ce que j'essaie de montrer...
Mais c'est obscurantiste aussi.
Ça me semble être dans l'affiliation. Alors, Hayek n'aurait pas aimé ça, mais je pense que si on prend ça du point de vue de l'histoire des institutions au XXe siècle, c'est assez clair. C'est dans l'affiliation de ce qu'a été l'entreprise communiste. Le communisme réel, déjà jugeant le droit comme une forme de fétichisme, on parlait de fétichisme de la forme juridique, donc ce sont des choses qu'il faut écarter, ce qui explique aussi pourquoi la sociologie et l'anthropologie française, qui avaient été si attentives aux droits et aux institutions jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, sont mis à dire des choses aussi rudimentaires et même fausses dans la génération de l'après-guerre. Donc, il y avait certainement chez Hayek cette espèce de vision d'un peuple de sujets souverains. Alors, les économistes d'école de Chicago sont pas les seuls à avoir raisonné comme ça. On peut dire que dans une certaine mesure, la French Theory, elle aussi, a vu le monde et continue de le voir d'ailleurs comme une collection de sujets qui affirment leur absolue souveraineté. Chacun est souverain de soi sur soi. Bon. Sur cette base, on va dire, qu'est-ce qui va souder l'ensemble? Eh bien, ce sont les ajustements de calcul d'intérêt. Alors, c'est évidemment une vision qui s'inscrit dans ce qu'a été auparavant l'utopie communiste, qui était d'avoir un calcul d'intérêt collectif, puisque une institution comme le Gosplan visait à régir l'activité économique à partir de calculs d'utilité collective. Et on n'a pas à douter de la bonne foi de ceux qui mettent en place ces dispositifs. Mmh. Ensuite, évidemment, ceux qui y croient vraiment, il ne s'agit pas de discuter de leur bonne foi. Ils y croient, c'est ce qui rend ça d'ailleurs éventuellement dangereux. Mais on a trop vite tourné la page de ce qu'a été cette tentative du communisme réel, d'une gestion par le calcul et où le droit n'est que le moyen de mettre en œuvre ces calculs d'utilité. Alors la différence avec le régime dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'ultralibéralisme, c'est que dans le modèle soviétique, on pensait à des calculs centralisés, qui ensuite prenaient la forme de directives juridiques qui allaient jusqu'à la moindre entreprise et le moindre travailleur qui devait réaliser ses objectifs. Donc on était dans la direction par objectif, qui est devenu le B.A.B.A. du management moderne. Alors que aujourd'hui, dans le néolibéralisme, on part des calculs d'utilité individuelle qui sont censés s'agréger au travers de dispositifs éventuellement comme l'arbitrage. Et on préfère l'arbitre au juge, parce que le juge lui-même est encore dans une position verticale et hétéronome, alors que l'arbitre est lui-même un acteur sur un marché qui est le marché de l'arbitrage.
C'est pour ça que le traité transatlantique veut généraliser l'arbitrage. Les entreprises pourraient poursuivre les États, c'est la loi du marché total.
On peut dire à propos de ce traité la même chose que ce qu'on pouvait dire tout à l'heure sur le marché. Quand on parle de marché total, il faut bien voir que le marché total est quelque chose qui ne peut que détruire progressivement les marchés qui fonctionnent réellement. C'est pour ça que je souscris assez à la thèse du sociologue allemand Wolfgang Streck quand il dit que le capitalisme est entré dans des boucles suicidaires. Si je prends juste un exemple, si vous voulez voir ce que c'est, de façon imagée, ce qu'est un marché, on peut se représenter la place du marché de Bruxelles, c'est un endroit superbe que vous avez peut-être visité. C'est défini par des limites, c'est-à-dire si vous sortez de la place du marché et que vous allez au palais de justice, vous n'êtes plus dans le marché, ou alors ça voudrait dire que la décision du juge est à vendre. Et à ce moment-là, une cité dans laquelle on peut acheter les juges n'est pas une cité où on peut faire un bon commerçant peut survivre. Donc le marché total est un obstacle à la réalisation et au bon fonctionnement des marchés concrets. Et alors votre question,
pourquoi non, je disais que l'arbitrage.
Oui, alors l'arbitrage était, c'est la même chose. Oui, merci, excusez-moi de me rappeler le fil.
Devenait la règle absolue.
L'arbitrage en soi est une institution qui est parfaitement légitime dans un certain contexte, c'est-à-dire c'est une très vieille pratique. Des grandes entreprises de poids économique équivalent peuvent décider entre elles plutôt que pour maintenir leurs relations d'affaires de ne pas porter devant le juge, de s'arranger. Ça c'est toujours fait. Bon, mais à partir du moment où on pense soumettre à l'arbitrage quelque chose qui est de l'ordre des intérêts publics, des États, à ce moment-là, on ne peut pas le faire sans remettre en cause ce qui était au fondement de l'autorité du règne de la loi, c'est-à-dire l'idée que c'est un peuple législateur et que sa volonté est souveraine. Donc à ce moment-là, vous la soumettez elle-même à l'empire de ce marché de l'arbitrage, d'un calcul. Et là, on peut penser que l'arbitrage sort des limites dans lesquelles il est légitime. Mais le traité transatlantique bute là-dessus. Le traité transpacifique, parce que les États-Unis essaient de négocier en même temps un traité avec l'Europe et un autre avec l'Asie du Sud-Est. Et c'est intéressant de voir celui avec l'Asie du Sud-Est qui a été signé mais pas ratifié encore, bute lui sur d'autres sujets, mais qui sont également qui méritent attention. C'est l'extension extravagante des droits de propriété intellectuelle, notamment sur les médicaments. Donc dans le même temps où l'on a la doxa de la libre concurrence et de la compétition, il y a la constitution de rentes de situation liées à l'extension de ces droits de propriété intellectuelle et qui, là aussi, mettent en cause la capacité des États d'assurer la santé et la vie de leur population. Donc c'est vrai que ces traités, c'est très intéressant à analyser du point de vue juridique parce qu'on est sur les points avancés de la décomposition du règne de la loi au profit de ce que j'ai appelé la gouvernance par les nombres.
Mais alors, dans ce contexte, Alain Supiot, l'État devient un factotum des marchés.
L'assujettissement, il est préposé à assurer, à payer les pots cassés, que ce soit sociaux ou environnementaux. On l'a bien vu à l'occasion de la crise de 2008. Où là, on a fait retour aux États. Donc, il n'est plus en position de surplomb. C'est aussi une des choses dont il faut être conscient à propos de la remise en cause de l'État social à l'ancienne, c'est que le néolibéralisme, contrairement au libéralisme classique, n'est pas du tout contre les prélèvements obligatoires. Si vous prenez le cas des retraites, c'est un rapport de la Banque mondiale qui date de 94 ou 95 qui donne le mouvement et la consigne de dire les systèmes de retraite doivent devenir des instruments de financement de l'économie par les fonds de pension. Donc il s'agit de développer la capitalisation des retraites. Donc on maintient le caractère obligatoire. On ne veut pas revenir à de la pure prévoyance individuelle où chacun ferait ce qu'il voudrait. Donc on a des systèmes de collecte de l'argent, mais cet argent doit être dirigé vers les marchés financiers, d'où la remise en cause des systèmes de retraite par répartition. Donc il ne faut pas confondre le néolibéralisme avec le libéralisme.
Donc votre cours 2013-2014 portait sur les figures de l'allégeance, Alain Supiot. J'ai l'impression que vous en avez parlé. Donc c'est cette question de la verticalité, de la stabilité.
J'en dis un mot malgré tout, parce que c'est justement toute la seconde partie du livre qui a été publié, ce livre qui couvre les deux années de cours, sur l'allégeance. Parce que dans un système où vous n'avez plus cette figure d'une loi faisant réellement autorité et s'imposant à tous. Chacun de nous peut se représenter. Qu'est-ce que c'est que d'être dans un système comme ça? Vous êtes en Centrafrique, dans la situation que l'on connaît, ou vous êtes dans une banlieue où l'état de droit n'est plus vraiment assuré. Comment vous faites pour survivre? Eh bien, vous cherchez à vous rallier des gens qui vont vous soutenir et vous vous mettez au service de gens plus forts que vous qui vont vous protéger. Donc dans ce genre de situation où il n'y a plus une instance garante de l'identité et de la sécurité de chacun, il n'y a pas d'autre façon de survivre que de s'inscrire dans des liens d'allégeance. C'est-à-dire, je le répète, soit de se mettre au service de plus fort que soi qui va vous protéger et aussi de contrôler plus faible que soi, mais des gens qui vont devoir commenter sur vous.
Et donc le modèle générique, c'est la mafia en quelque sorte.
Alors, vous avez raison d'évoquer la mafia, parce que c'est pas forcément ça. C'est-à-dire ce à quoi ça fait penser tout de suite pour un juriste, c'est les montages du droit féodal. C'est-à-dire où le lien de base dans le droit féodal, c'est ce qu'on appelait la tenure-service. C'est-à-dire vous n'êtes pas, par exemple, en salarié, mais je vous confie un bien, vous allez pouvoir jouir des produits de ce bien, mais seulement vous devez gérer ce bien dans un sens qui soit conforme à mon intérêt. Alors ce modèle, la tenure-service, pouvait se décliner entre les nobles, c'était ce qu'on appelait un fief, etc. Et puis il y avait ce qu'on appelait les tenures serviles pour les roturiers. Mais le montage était toujours le même, c'est-à-dire je vous confie une sphère d'autonomie avec une gestion économique qui va vous permettre de survivre, mais vous devez le gérer dans le sens de mon intérêt. Or, ce schéma est celui qui réapparaît massivement partout. Il réapparaît dans les rapports individuels de travail. Alors là, on pourrait parler de la réforme travail, dont l'un des éléments les plus frappants de l'actuelle loi en discussion, c'est que les deux cibles, c'est la force obligatoire de la loi et la force obligatoire des contrats individuels. C'est-à-dire qu'il faut mettre les salariés dans un rapport où ils sont susceptibles de suivre la volonté et les besoins changeants de celui auquel ils ont fait allégeance, moyennant quoi on va leur assurer, ou promettons, on va leur assurer certaines sécurités. Donc il y a cet échange entre un devoir de protection. Au niveau individuel, c'est cette évolution. Si vous raisonnez maintenant, si vous observez, c'est pas de raisonner, les transformations de l'entreprise, on observe le même glissement. C'est-à-dire que l'entreprise de M. Ford ou les grandes entreprises du monde industriel jusqu'à l'après-guerre, c'était des ensembles hiérarchisés, unifié, concentré, on faisait tous les éléments de la voiture. Bon. Aujourd'hui, le modèle, c'est au contraire celui des réseaux de production et où on dit le fait d'être détenteur de la propriété n'est plus l'élément déterminant. Il faut être ou alors c'est la propriété intellectuelle, c'est-à-dire il faut être détenteur des systèmes d'information, mais peu importe que ce soit Foxconn qui possède les chaînes. Si vous possédez les systèmes d'information, vous restez, vous, Apple, le maître du jeu. Donc, vous avez une recomposition.
C'est le système Uber, pardon.
C'est aussi le système Uber qui apporte ça.
Il y a un logiciel.
À son extrême, oui, c'est le contrôle
et
du système d'information qui assure.
Et
vous savez comment on appelle un salarié, enfin, pas un salarié, mais un chauffeur qui est remercié par Uber, on dit pas qu'il est licencié puisqu'il n'est pas salarié, on lui dit qu'il est déconnecté. Donc là, vous avez dans cette expression aussi la manifestation immédiate de l'imaginaire sous-jacent, qui est l'imaginaire de type cybernétique, en effet. Puisque dans l'imaginaire cybernétique, chaque entité est dans la réaction aux signaux qu'elle reçoit de son environnement et doit s'adapter à ces signaux pour réaliser ses objectifs. D'où le succès extraordinaire dans l'imaginaire contemporain de la notion de programme qui irrigue la biologie, l'informatique, et puis qui irrigue aussi le discours politique, puisqu'on va dire que maintenant on dit couramment qu'un homme politique a changé de logiciel ou que c'est son logiciel qui veut que. C'est-à-dire l'assimilation de l'être humain à un ordinateur est devenu un fait assez commun.
Avant, le modèle, c'était le modèle biologique. Et maintenant, donc, c'est devenu le modèle informatique.
Oui, enfin, le biologisme ressurgit aussi à gros bouillon. Mais il est certain que dans ces figures de l'allégeance, elles sont... Parce que tout ça a été pensé, exprimé, avant que ça se traduise dans les faits. C'est dans les années 50, il y a le tournant dans les façons de concevoir le management. Alors, je l'ai décrit sur le contrat individuel, j'ai décrit dans les rapports entreprises. C'est aussi vrai dans les rapports entre les États. Quand on demande aux Grecs, en juillet 2015, de signer un texte dans lequel on ne leur promet rien, mais on leur demande de confesser leurs fautes, pour rétablir la confiance, c'est le texte que le gouvernement grec a signé en 2015. Oui. C'est un texte très intéressant à lire, il est disponible en ligne, je vous conseille d'aller le lire, puisqu'on fait dire au gouvernement grec, si la dette est insoutenable, c'est uniquement en raison des politiques menées depuis janvier 2015. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un acte d'allégeance au sens le plus pur du terme, c'est-à-dire que les Grecs disent, nous avons fauté, nous le reconnaissons et nous attendons de vous la protection pour l'avenir. Donc, vous avez...
Donc, c'est quand même un système très obscurantiste, en quelque sorte.
Mon problème n'est pas de porter des jugements. Je suis dans analyse juridique, c'est le titre
de
la
chaîne. Oui, je suis d'accord.
C'est d'essayer de comprendre, par les outils du droit, les transformations du monde institutionnel contemporain. Et ce qui arrive aux Grecs, c'est ce qu'ils connaissaient depuis longtemps les pays africains qui signaient des plans d'ajustement structurel. Parce que c'est exactement la même logique. Vous vous engagez à réaliser certains objectifs. Vous êtes dans une situation de faiblesse vis-à-vis de bailleurs d'ordre. Et donc, vous voyez bien que on n'est plus dans le schéma fictif, lui-même, d'une autre façon, des États égaux, souverains, dans une société internationale. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, je crois me souvenir que je citais pour illustrer ça la théorie avancée par M. Bush pour mettre en œuvre la mise à bas de Saddam Hussein. Il a employé une nouvelle doctrine développé par la diplomatie américaine, qui est « the coalition of the willing », la coalition des volontaires. C'est-à-dire qu'on ne pense plus les relations internationales sur le mode des organisations, donc une loi internationale avec des organisations garantes de cette loi, ça c'était le modèle issu de 1945, mais sur le modèle de la coalition, alors ça c'est très médiéval, c'est-à-dire le grand seigneur, là c'est l'empereur dans le cas de Bush, lève son drapeau et il appelle ses grands vassaux qui doivent le suivre. Et ils l'ont suivi. Les Anglais, je crois, il y avait 3000 hommes. Les Ukrainiens, il y en avait 15. Mais chacun va avec ce qu'il a. C'est comme ça qu'on faisait la guerre au Moyen-Âge. Donc, c'est ce déplacement de l'organisation à la coalition est aussi très manifeste, clairement, ce qu'on peut caractériser en termes généraux comme lien d'allégeance.
Oui. Alain Soupir, j'aimerais juste que vous me disiez pourquoi vous avez hésité à me dire que ce n'est pas du tout un système mafieux. Que ce n'était pas exactement en ces termes que ça se posait. Quand même, ce système de protection, de parrainage, d'une certaine manière, évoque quand même...
Vous avez raison. Et c'est, je crois qu'un certain nombre de magistrats ont mis ça sur la table, que l'un des problèmes que nous avons, c'est aussi le fait de magistrats, même comme Mme Joly, que je ne parle pas là de la femme politique, mais de la magistrate. Il y avait aussi une déclaration de Genève d'un certain nombre de magistrats européens qui s'inquiétaient du fait que les circuits financiers et les circuits de blanchiment d'argent criminel, maintenant, c'était la même tuyauterie. L'un des versants possibles des régimes d'allégeance, c'est le régime mafieux. Et il prospère... J'essaie de me souvenir du nom de l'auteur, je suis en train de terminer son livre sur la mafia, je crois que c'est De Saint-Victor, un historien qui a fait un très beau livre sur la mafia. Il explique le lien entre les nouvelles formes de la mafia dans le sud de l'Italie, avec les nouvelles formes d'action de l'État, et en particulier le recours à des l'outsourcing, donc à la sous-traitance, à des agences, d'un certain nombre de missions, a ouvert la voie à la mafiosisation, enfin à la pénétration des liens mafieux dans des pans entiers de l'action de l'État. On pourrait, je pense, faire le même type d'observation en France, où ces systèmes de sous-traitance des missions d'intérêt général à des jeux d'agences, etc., permet la naissance de féodalité. Alors, pourquoi j'ai une hésitation ? Parce que on peut avoir des féodaux empreints d'esprit chevaleresque, porteurs de valeurs, et c'est-à-dire, je veux dire qu'il n'y a rien d'inscrit nécessairement dans ce déplacement. J'essaie d'analyser les évolutions en cours. Je ne crois pas qu'on puisse... Enfin, je ne suis pas sûr que le retour à ce rêve du règne de la loi, des États-nations, du souverainisme, qui est une marche arrière dans l'histoire. Il me semble qu'on nous sommes passés vraiment à autre chose. Et la question à se poser, c'est quelles sont les différentes formes, les différentes facettes de ces nouveaux types de liens personnels. Et si possible, il faudrait que ce soit le plus civilisé possible, que ça donne au plus grand nombre le plus de chances possible, ce qui n'est certainement pas le cas si on les laisse aller sur leur pente mafieuse, ce qui est absolument indiscutable. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pas par hasard, je fais beaucoup de lectures en ce moment sur l'histoire de la mafia. Voilà sur les liens d'allégeance qu'on peut dire. Mais je tenais à en dire un mot parce que c'est au fond... je crois, une clé d'interprétation assez efficace pour comprendre les ruptures institutionnelles que nous connaissons dans les domaines d'activité les plus divers, je l'ai dit, que ce soit dans l'ordre de relations internationales, vie économique, ça marche comme ça.
Actuellement, Alain Supiot, vous faites cours sur la justice sociale internationale. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que vous envisagez les choses ? Qu'est-ce que vous essayez de développer dans ce cours ? Quels sont les points sur lesquels vous travaillez ?
Oui, alors ce thème, je l'ai repris sous l'emblème, si je puis dire, de ce début du préambule de la Constitution de l'Organisation internationale du travail, adoptée en 1919, puis réitérée dans la Déclaration de Philadelphie, en 1944, il n'est pas de paix durable sans justice sociale. Et ce qu'ajoutent les textes de l'après Seconde Guerre mondiale, c'est de dire, c'est l'expérience nous l'a montré, l'expérience tragique de ces deux guerres, de ces morts, etc. Il faut s'arrêter un instant là-dessus. L'aspiration à de la justice entre les hommes, qui n'est pas forcément la redistribution, comme vous avez dit tout à fait au début, c'est aussi une juste distribution des revenus primaires avant de redistribuer. C'est-à-dire, bon, les travaux de Piketty, entre autres, mais enfin, tout le monde sait maintenant que depuis une vingtaine d'années, le prix du travail a baissé alors que les revenus du capital ont considérablement augmenté. C'est-à-dire qu'il y a de l'injustice dans la distribution primaire des revenus. Et ce que nous montre l'histoire, ce que disent ces textes à valeur constitutionnelle au plan international, c'est si on laisse faire ça, nous allons avoir de la violence. Voilà. Il n'y a pas tellement de prédictibilité dans l'ordre juridique, mais il y en a un peu. Et si vous pensez possible, ce qui était l'illusion de Hayek, de construire un ordre institutionnel uniquement autour de la recherche par chacun de la maximisation de ses utilités individuelles, vous allez avoir, si vous placez, comme ce que Kelsen appelait la Grundnorm, comme norme fondamentale, cette recherche, ce calcul d'intérêt individuel, vous ne pouvez avoir que la violence. Alors, c'est fondé sur cette expérience. La question qui se pose aujourd'hui au plan international, c'est que nous sommes face à ce qu'on peut appeler un ordre un peu schizophrénique. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons tous ces textes hérités de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont toujours là. L'Organisation internationale du travail est là. Les déclarations de droits sociaux sont là. Nous avons toujours l'OIT. Et puis d'un autre côté, depuis les années 80, s'est développé un ordre du commerce international qui est absolument antinomique avec cet ordre de justice sociale. Donc on a un ordre schizophrénique. Je peux vous donner un exemple très concret de cette schizophrénie. On parlait de la Grèce tout à l'heure. Bon, dans le cadre de la Troïka, la Grèce a été soumise alors aux recettes habituelles, c'est-à-dire de démantèlement de l'État, et notamment de l'État social. On a imposé des coupes drastiques dans les effectifs hospitaliers qui ont été diminués d'environ 30%.
Ah oui, la purge a été sévère.
Dans le même temps, paupérisation massive de la population qui ne peut plus accéder à la médecine de ville, donc afflux de patients dans les hôpitaux. Donc les personnels soignants qui restent ne vont pas laisser les gens mourir à la porte de l'hôpital, donc ils se sont mis à faire des heures de travail insensées, enfin des durées de travail insensées. La Commission a poursuivi la Grèce en disant « Vous ne respectez pas les limites d'heures de travail des directives. » Et la Grèce était condamnée par la Cour de justice de l'Union. C'est-à-dire, vous avez là un même ordre juridique qui, d'un côté, produit les conditions de déstructuration du service de santé et donc d'éclatement de toute espèce de limite aux conditions de travail de ces personnels. Et puis de l'autre, il y a l'autre hémisphère, si je puis dire, social, qui dit « Ah mais attention, il y a des limites de temps de travail, il faut les respecter ». Donc nous sommes dans ce type de situation.
Mais c'est la double contrainte.
On est dans une situation qui est, de ce point de vue, du point de vue juridique et normatif, qui est largement de l'ordre de la schizophrénie.
Pardonnez-moi, mais du point de vue humain, c'est absolument monstrueux.
Oui, j'y suis sensible. Ne croyez pas que...
Je sais.
Que j'ai... Mais j'ai donné cet exemple. Je pourrais en donner beaucoup d'autres. Donc, le cours de ces deux dernières années a eu pour objet de refaire l'histoire, d'abord de cette idée de justice sociale, de voir comment elle apparaît, parce que ces prémices sont présentes déjà dans les textes canoniques et vénérables de Aristote sur la justice, on peut déjà en trouver les traces. Dans sa formulation moderne, ça date du XIXe siècle, donc le cours a essayé de retracer cette généalogie de l'histoire de justice sociale, et puis d'examiner, en mettant le projecteur sur quelques cas, les résultats de cette contradiction, de cette schizophrénie. J'ai donné l'exemple là en matière de santé, j'aurais pu en donner un autre, puisque nous évoquions tout à l'heure les brevets sur les médicaments, l'extension indéfinie de la propriété intellectuelle qui, à la limite, bientôt nous interdira de parler, puisque chaque mot, j'en serai propriétaire, donc ça va devenir difficile de se parler. Cette expansion indéfinie a conduit à ce que un contentieux très important à la fin des années 90, début 2000, sur l'accès aux malades du sida, notamment en Afrique du Sud, il y a eu des procès. Et il y a un conflit évident entre les règles de l'OMS, autre organisation née de la Seconde Guerre mondiale, qui fixe l'impératif de protection de santé publique du plus grand nombre et de l'accès de tous aux soins, puis de l'autre côté, les revendications de propriété intellectuelle sur les médicaments qui, évidemment, vont dans le sens contraire. Bon. Donc, le cours a eu pour objet de montrer, d'examiner certains points de tension de cette nature et de voir comment ils peuvent être dénoués. Voilà, donc ça a été l'objet de ces deux dernières années.
Supio, de quel côté penchent les rapports de force entre les juristes aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des débats violents sur ces questions ? Et est-ce que ceux qui défendent les droits issus des deux premières guerres mondiales n'apparaissent pas trop comme des archaïsans, des rétrogrades, des dinosaures finalement ?
Oui, alors ça fait deux questions différentes. Est-ce que c'est être dinosaure que de rester attaché à l'apport normatif, disons, de l'après-Seconde Guerre mondiale ? Il me semble que non. C'était un des sujets traités là dans ce petit livre que vous avez eu l'amabilité de citer sur l'esprit de Philadelphie, puisque parler d'esprit de Philadelphie, donc c'était par référence à cette déclaration de Philadelphie, c'était de dire la façon dont nos parents, dans notre génération, ou grands-parents, pour les plus jeunes qui nous écoutent, ont pu, au sortir de ce traumatisme énorme de la Seconde Guerre, rebâtir des sociétés en se disant on va faire quelque chose d'un peu plus juste, d'un peu mieux. Ils l'ont fait dans un contexte à la fois politique, et technique et économique tout à fait différent d'une autre. C'est-à-dire que les réponses qui ont été apportées dans l'immédiate, enfin dans ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, sont des réponses qui, à bien des égards, ne correspondent plus à la situation présente. Mais en revanche, les principes qui animaient eux gardent toute leur actualité. Donc il faut se garder d'identifier ces principes tels qu'ils ont été réaffirmés avec vigueur, avec leur mise en œuvre historique qui, par définition, doit évoluer. Si je puis me permettre d'évoquer Marx ici, parce qu'il écrivait bien, mais il dit notamment, il ne faut pas méconnaître les dimensions révolutionnaires du capitalisme qui sans cesse remet en cause toutes les sécurités acquises, oblige à repenser. Donc l'un des problèmes qui se pose notamment au mouvement syndical, c'est de ne pas avoir un train de retard par rapport aux formes actuelles d'organisation de l'économie et de ce que rend possible aussi les nouvelles techniques, pour le meilleur ou pour le pire. Et donc, il y a un besoin d'actualisation permanente des formes de mise en œuvre concrète de principes dont on peut penser, eux, qui sont de toutes les époques, mais j'aurais pu citer sur l'expérience nous montre que l'injustice conduit à la violence, j'aurais pu citer Bossuet, ou j'aurais pu citer Francis Bacon, qui était aussi le père de la science moderne, mais qui était aussi un grand juriste, et qui, dans ses essais, dans le chapitre sur troubles et séditions, et il s'adresse au roi d'Angleterre en écrivant ça, dit « L'argent est comme le fumier. Il ne faut pas se laisser s'entasser, parce que c'est une nuisance. Ça pue, c'est malsain. En revanche, si on prend soin de le répandre, il féconde la terre. » Bon, donc, c'est un savoir très ancien. C'est Danny Robert Dufour a publié très récemment un tout petit texte, mais pour développer une notion qu'il avait remis sur la table, qui est la notion de pléonexie, c'est-à-dire l'interdiction de la pléonexie comme interdiction de l'accumulation entre quelques mains de richesses énormes pendant que le reste du monde s'assèche. On sait depuis toujours que c'est une situation extrêmement dangereuse et explosive. Mmh. Oui. Donc il n'y a rien de neuf sous le soleil de ce point de vue. Alors, l'autre aspect de votre question, c'était sur le monde des juristes.
Oui.
Bon, c'était un monde très divers. Il me semble l'un des problèmes, et ça me donnerait presque l'occasion de commenter la seconde partie de l'intitulé de la chaire « Analyse juridique des solidarités », c'est que le droit a plusieurs facettes. Et sa facette première, j'allais dire, justement depuis le digeste, c'est de rendre accessible cet univers de chaque jour plus complexe et impénétrable de règles, de sources dont chacun doit s'arranger. Donc il y a un travail de mise en ordre qui a toujours été celui des juristes occidentaux, qui est très difficile, très consommateur de temps et qui, de surplus, est ce qui est attendu par ceux qui payent les juristes, au sens les avocats, etc. Donc ça consacre énormément d'énergie. Mais le droit peut être aussi un instrument d'analyse critique. En tant qu'analyse juridique, ça veut dire qu'au travers du droit, ce que nous donne à voir une société, c'est ce qu'elle rêve quand elle nous dit « tous les hommes naissent libres et égaux ». C'est un rêve, mais c'est un rêve qui peut être efficient, qui peut imprimer quelque chose sur la réalité. Elle nous donne aussi à voir les cauchemars lorsqu'on dit « il faut que les étrangers restent tous à nos portes », il faut que donc les peurs d'une société se donnent à voir. Donc au travers du droit, de façon indirecte, on voit sur la scène du droit les symptômes des transformations de la société. Alors, il me semble qu'il faut essayer de tenir ces deux, dans un métier de juriste complet, de tenir ces deux bouts de la corde. C'est-à-dire, d'une part, l'aspect technique de maîtrise. C'est l'aspect indispensable. Quand on voit trop souvent des gens d'autres disciplines se mettre à dire des choses définitives sur le droit, alors qu'ils n'ont jamais ouvert un code, ils n'ont jamais essayé de lire un arrêt. Donc il y a d'abord cette technicité qu'il faut maîtriser. Et puis le deuxième aspect, c'est la mise en contexte des textes. C'est-à-dire qu'est-ce que ces textes nous donnent à voir et à comprendre l'état de la société. Et pour arriver à ce deuxième stade, il faut aussi s'ouvrir au savoir non juridique. Donc c'est rentrer dans ce qu'on appelle du travail transdisciplinaire. En tout cas, il faut nourrir la réflexion juridique par les apports des autres disciplines. Et de ce point de vue, le Collège de France est un lieu particulièrement agréable parce que, avec mes collègues, si je me pose des questions, ils sont souvent enclins à me donner les réponses.
Merci Alain Supiot de nous avoir accordé cet entretien. Nous n'avons pas le temps de parler de votre dernier livre édité chez Flammarion qui s'intitule « Au-delà de l'emploi ». Vous y constatez que depuis le tournant du siècle, on a abandonné toute ambition sociale, qu'on réduit le droit du travail à un simple facteur d'ajustement aux contraintes de la globalisation. Nous n'avons pas non plus parlé du travail très important de l'Institut des études avancées de Nantes que vous avez fondé et que vous dirigez, ni de vos articles dont les plus récents éclairent si bien l'actualité, mais vos pages internet sur le site du Collège de France sont vraiment très très bien tenues et les auditeurs pourront y trouver toutes les informations qu'ils désirent.
Merci de votre hospitalité.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Alain Supiot, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation Christine Goémé. Rendez-vous demain pour écouter un entretien avec Claire Voisin, titulaire de la chaire Géométrie algébrique. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.